Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon.
Et Rosine Monet-Zero.
Pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mercredi 12 juillet 2023.
En marge du sommet de l'OTAN à Vilnius, le G7 dévoile une initiative pour la sécurité de l'Ukraine sur le long terme.
Évacuation dans le nord-est des États-Unis, touchée par des inondations historiques.
Après le Kenya, le président iranien poursuit en Ouganda sa tournée africaine.
En Centrafrique, la campagne pour le référendum constitutionnel du 30 juillet débute le samedi 15 juillet.
La seule chose qui les a jetés dans la Constitution du 30 mars 2016, c'est l'article 153 qui exclut expressément de la révision le nombre et la durée du mandat du président de la République.
Dossier à suivre dans la partie magazine.
La guerre au Soudan a fait plus de 3 millions de déplacés et de réfugiés selon l'ONU.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Réunis en marge du sommet de l'OTAN à Vilnius en Lituanie, les dirigeants du G7 ont promis d'importantes aides militaires à l'Ukraine. Pour le président ukrainien, ces promesses ne peuvent remplacer une adhésion à l'OTAN. Les détails avec Dili Dilko.
Le président Volodymyr Zelensky a affirmé que les engagements des pays du G7 annonçant une aide militaire à long terme pour Kiev représentent une victoire importante pour la sécurité de son pays. Il a cependant souligné qu'elle ne pouvait se substituer à une future adhésion à l'Alliance Atlantique. Au dernier jour du sommet de l'OTAN, les membres du G7 ont présenté un plan d'aide pour Kiev pour l'aider à combattre l'invasion russe et dissuader Moscou de toute future attaque armée. Avant même la publication du texte du G7, le Kremlin a jugé que ces garanties de sécurité à l'Ukraine porteraient atteinte à la sécurité de la Russie. De son côté, le président Joe Biden a assuré à Vilnius que le G7 aiderait l'Ukraine à bâtir de fortes capacités défensives sur terre, en mer et dans les airs. Il a assuré que l'avenir de l'Ukraine est dans l'OTAN.
Le Parlement turc va ratifier l'adhésion de la Suède à l'OTAN dès que possible, mais pas avant le mois d'octobre au mieux, a indiqué aujourd'hui le président Recep Tayyip Erdogan. Il y a un congé parlementaire de 2 mois et il y a beaucoup d'accords internationaux à examiner, beaucoup de propositions législatives qui doivent être discutées par ordre d'importance, a souligné le chef de l'État turc en marge du sommet de l'Alliance Atlantique à Vilnius.
Des pluies torrentielles ont emporté des routes et forcé des évacuations dans le nord-est des États-Unis. De très fortes pluies sont tombées entre dimanche et lundi dans la région de New York. Alexandrine Ollignon.
Des images diffusées par les autorités montrent des routes inondées et impraticables. Dans la vallée de l'Hudson à New York, une femme s'est noyée alors qu'elle tentait de quitter sa maison inondée. Dans le Vermont, des équipes de recherche ont aidé les sauveteurs à atteindre des villes qui étaient inaccessibles depuis que des torrents de pluie ont commencé à s'abattre sur l'État. La tempête, qui se déplace lentement, a atteint la Nouvelle-Angleterre après avoir frappé certaines parties de l'État de New York et du Connecticut. Il s'agit de phénomènes inédits, selon la gouverneure démocrate de l'État de New York, qui a appelé la population à se mobiliser pour lutter contre les ravages du changement climatique. Les autorités affirment que la tempête a déjà causé des dizaines de millions de dollars de dégâts et annulé des centaines de vols dans les aéroports de New York et de Boston. Le président Joe Biden a proclamé l'état d'urgence pour le Vermont, permettant de débloquer des aides fédérales.
Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a promis aujourd'hui de reconstruire le camp de réfugiés de Jenin, en Cisjordanie occupée, visé début juillet par une opération militaire israélienne meurtrière lors de sa première visite dans la région depuis plus de 10 ans. Les 3 et 4 juillet, la ville de Jenin et le camp de réfugiés voisins ont été le théâtre d'une opération de 48 heures, la plus importante menée depuis des années à Israël en Cisjordanie.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté mercredi une résolution condamnant les autodafés du Coran et autres actes de haine religieuse. La police suédoise avait autorisé le rassemblement au cours duquel des pages du Coran ont été brûlées, mais a ouvert par la suite une enquête pour agitation contre un groupe ethnique au motif que l'autodafé s'est déroulé devant une mosquée. Cet incident a déclenché une série de réactions dans le monde musulman. La résolution a été adoptée à l'issue d'un débat demandé par le Pakistan au nom de plusieurs pays de l'Organisation de coopération islamique.
L'écrivain tchèque naturalisé français Milan Kundera, auteur de l'insoutenable légèreté des lettres, est mort à l'âge de 94 ans. Milan Kundera est décédé dans l'après-midi du mardi 11 juillet, a déclaré à Paris son éditeur Gallimard. Milan Kundera avait émigré en France en 1975 après avoir été frappé de censure et exclu du Parti communiste tchécoslovaque. Il avait obtenu la nationalité française sous la présidence de François Mitterrand en 1981.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Kenya, au moins 6 personnes ont été tuées dans plusieurs villes lors des manifestations contre de nouvelles taxes, ont déclaré 2 sources policières. La police a tiré du gaz lacrymogène sur des manifestants qui avaient bravé l'interdiction du rassemblement, appelé par l'opposition pour dénoncer la hausse des prix et de nouvelles taxes. Les commerces étaient fermés et la capitale Nairobi placée sous haute surveillance policière. Ces incidents surviennent quelques jours après d'autres manifestations meurtrières contre le gouvernement du président William Ruto dans plusieurs villes du pays.
Après une courte visite au Kenya, le président iranien Ibrahim Raisi est arrivé en Ouganda, deuxième étape de sa tournée africaine, une première pour un dirigeant iranien depuis 11 ans, le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le président Ibrahim Raisi a qualifié sa visite au Kenya de tournant dans les relations entre les deux pays, en dépit des sanctions internationales contre l'Iran.
Malgré les menaces et les sanctions de nos adversaires, notre pays est parvenu à progresser dans différents domaines et aujourd'hui, nous devrions qualifier l'Iran de plaque tournante de la technologie.
Pour sa part, le président William Ruto a décrit l'Iran comme un partenaire stratégique essentiel du Kenya.
Aujourd'hui, le président Raisi et moi-même avons assisté à la signature de 5 protocoles d'accord sur la coopération dans les domaines de l'information, de la communication et de la technologie, de la pêche, de la santé animale et des produits de l'élevage, ainsi que de la promotion des investissements.
Le président Ruto a ajouté que son homologue iranien lui a fait part du projet d'installer une usine dans la ville portuaire de Mombasa, dans le sud, pour produire des véhicules de fabrication iranienne. Le président Raisi est en Ouganda et demain jeudi, il sera au Zimbabwe.
Au Soudan, le conflit qui a fait rage depuis près de 3 mois entre l'armée et les paramilitaires a forcé plus de 3 millions de personnes à fuir leur foyer. C'est ce qu'a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations, une agence de l'ONU. Mohamedou Oumfa.
Le nombre de personnes ayant fui à l'étranger les combats avoisine les 724 000, tandis que celui des déplacés internes dépasse les 2,4 millions selon l'OIM, Organisation internationale pour les migrations. C'est plus qu'un simple chiffre, il s'agit de personnes qui ont été déracinées, qui ont fui pour sauver leur vie, de familles qui ont été séparées et d'enfants qui ne pourront plus aller à l'école, a déclaré sa femme Chili, une porte-parole de l'OIM. Le nombre réel de personnes qui ont fui le pays est très certainement plus élevé que le chiffre donné par l'OIM, car le nombre d'arrivées en Égypte, près de 256 000, remonte au 18 juin. L'Égypte et le Tchad sont les pays qui ont reçu le plus grand nombre de personnes fuyant les violences. Nous ne pouvons tout simplement pas nous détourner du Soudan. Une cessation immédiate des hostilités est nécessaire de toute urgence, a souligné la porte-parole de l'OIM.
Au Niger, plus de 10 800 personnes, dont des femmes et enfants, issus d'une dizaine de villages du sud-ouest du pays, près du Burkina Faso, ont fui leur domicile depuis début juillet après des violences d'hommes armés, ont rapporté ce mercredi des sources humanitaires et les autorités locales. Ces personnes fuient les violences perpétrées par des éléments présumés de groupes armés non étatiques présents dans la région de Tillabéri et dans la zone des trois frontières, précise un communiqué du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU à Niamey.
Une vingtaine de camions ont été incendiés ces derniers jours en Afrique du Sud, a annoncé mercredi la police. Une mystérieuse série qui inquiète et qualifiée de sabotage économique par le président Cyril Ramaphosa. Les incendies ont commencé dimanche, jour du deuxième anniversaire des émeutes de juillet 2021 qui avaient débuté par l'incendie de camions et plongé le pays dans les pires violences depuis la fin de l'apartheid en 1994. Nous savons que ce ne sont pas des actes criminels isolés, mais quelque chose d'organisé, c'est ce qu'a déclaré le ministre de la police Bekki Sélé, ajoutant que l'enquête se poursuit.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Mouamadou Moufa.
L'Angola et la RDC ont décidé de rénover une ligne de chemin de fer reliant les régions minières congolaises à l'océan Atlantique. S'étendant sur environ 1700 km², cette ligne de chemin de fer a été construite il y a 100 ans par des investisseurs britanniques. En partie financé par les États-Unis, ce projet d'un coût de 555 millions de dollars devrait permettre de développer l'exportation, entre autres, de minerais de cuivre ainsi que le commerce régional. Au Cameroun, 73% des adhérents de la principale organisation syndicale du pays ont voté pour la fusion avec Entreprises du Cameroun, une autre organisation patronale principalement dédiée aux PME. C'était mardi au cours de l'Assemblée générale du groupement interpatronal du Cameroun tenu à Douala, la capitale économique du pays. Ce vote ouvre ainsi la voie dès janvier 2024 à la mise sur pied d'une nouvelle centrale patronale unifiée. Le Royaume-Uni a annoncé mercredi des sanctions contre les entreprises qui fournissent financement et armes à l'armée et aux paramilitaires impliqués dans le conflit au Soudan, selon un communiqué de la diplomatie britannique. Ces gels d'avoir visent 6 entreprises, dont 3 contrôlées par les forces armées soudanaises et 3 par les forces de soutien rapide. Les États-Unis avaient annoncé le 1er juin des sanctions similaires.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
L'AS Real de Bamako est sacré champion du Mali.
Oui, le club de la capitale finit premier du championnat malien de Ligue 1 et s'offre le trophée 37 ans après son dernier titre. L'AS Real de Bamako reçoit en plus un chèque de 20 millions de francs CFA de la part du comité exécutif de la Fédération malienne de football. Notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré, était au terrain de l'AS Real lors de la remise du trophée.
C'est dans une ambiance de fête que la cérémonie de remise s'est déroulée sur le terrain du club lui-même à Dikoroni-Para, un quartier de Bamako. 37 ans après son dernier trophée, soit en 1986, ça se fête. Nouhoum Diané est le coach du Real de Bamako.
Bien sûr, logiquement, ça doit se fêter. Voilà, tu vois que tout le monde est heureux, hein. C'est vrai, on fête à notre manière. Je suis très heureux comme tous les supporters. Hein. Et je pense que quel que soit l'entraîneur, s'il est à ma place aujourd'hui, il sera très heureux.
Le président de l'AS Real de Bamako, Maître Fama Kandamele, était tout simplement un dirigeant comblé, car l'objectif qu'il s'est lui-même assigné au début de la saison est atteint.
Franchement, je suis très ému, je suis très content. Le trophée, je dédie ça aux anciens, à toute la famille du Real, à toute la famille noir-blanc, particulièrement le premier président, Fé Kadjali Diawara.
Habitué depuis presque 4 décennies à voir seulement 2 clubs remporter le titre de champion au Mali, notamment le stade malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club, l'AS Real de Bamako a surpris plus d'un lors de la saison qui s'est achevée. Le Real de Bamako représentera le Mali à la Ligue africaine des clubs champions la saison prochaine. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
La Côte d'Ivoire va livrer les infrastructures pour la CAN 2024 en août.
C'est ce qu'ont annoncé à Abidjan, responsable de la Confédération africaine de football, et le ministre ivoirien des Sports. Mi-août ou fin août, la CAF va recevoir toutes les infrastructures, puisque après le tirage au sort du 12 octobre, les équipes qualifiées vont visiter les stades. Nous sommes dans notre planning, a affirmé Samson Adamo, représentant du secrétaire général de la CAF. En plus des 6 stades de compétition dans 5 villes, Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro, il est aussi prévu 24 terrains d'entraînement aux normes de la CAF, soit 4 terrains par stade.
Tennis, Hans Jabeur qualifié pour les demi-finales de Wimbledon.
La Tunisienne de 28 ans, 6e mondiale, a pris sa revanche de la dernière finale de Wimbledon en battant en quart de finale la Kazakh Elena Rybakina 6-7, 6-4, 6-1 face à la Bélarusse Arina Zabalenka, 2e mondiale. Hans Jabeur va tenter demain jeudi de se qualifier de nouveau pour la finale sur le gazon londonien.
Athlétisme, Caster Semenya a réagi après la décision de la Cour européenne des droits de l'homme.
La justice a parlé, mais ce n'est que le début, a réagi l'athlète sud-africaine au lendemain de la décision en sa faveur de la Cour européenne des droits de l'homme qui l'estime victime de discrimination. World Athletics la prive de certaines courses parce qu'elle refuse un traitement pour faire baisser son taux de testostérone.
Page d'espoir VO Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
le monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Villon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En République centrafricaine, le président Faustin Archange Touadéra vient de remettre le projet de nouvelle constitution qui sera soumis à un référendum le 30 juillet prochain à l'organe chargé de diffuser le texte. Davantage avec Jacques Aristide.
Cette nouvelle constitution pourrait permettre au chef de l'État centrafricain de briguer un troisième mandat, ce que lui interdit l'actuelle loi fondamentale en vigueur dans ce pays, toujours en proie à une rébellion après des années de guerre civile.
Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine.
J'ai convoqué le 30 mai 2023 le corps électoral de la République centrafricaine en vue de se prononcer par référendum sur le projet de la nouvelle constitution. La campagne référendaire débutera, vous le savez, le 15 juillet 2023 et prendra fin le 28 juillet de la même année.
Faustin Archange Touadéra a été élu en 2016, puis réélu en 2020, alors que moins d'un électeur, un sur trois, a eu la possibilité d'aller aux urnes pour des raisons de sécurité. Il est accusé par l'opposition et la rébellion de vouloir, en se faisant réélire en 2025, demeurer président à vie du deuxième pays le moins développé du monde, d'après l'ONU.
Gervé Lacosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile de Centrafrique.
La seule chose qui les a jetés dans la constitution du 30 mars 2016, c'est l'article 153 qui exclut expressément de la révision le nombre et la durée du mandat du président de la République, la forme républicaine et laïque du pays, les incompatibilités aux fonctions du chef d'État, ainsi que le contenu du présent article.
Pour le gouvernement, toutefois, il n'y aura pas de troisième mandat, mais les compteurs seront remis à zéro. Un ministre conseiller précise que tout le monde pourra ainsi être un candidat, y compris le président Touadéra, s'il le souhaite.
Aristide Reboaz, ministre centrafricain de la Jeunesse et des Sports.
Dans la Constitution, il y a deux éléments qui influent. La Constitution, il y a l'histoire d'un peuple et il y a la géographie d'un peuple. Et pourtant, nous avons eu toujours des constitutions qui nous ont toujours été imposées par les contingences historiques. C'est-à-dire, ça vient de l'extérieur, ça nous impose, y compris les régimes.
L'ONU reproche à Bangui, au diapason des capitales occidentales et des ONG, d'avoir mis la RCA sous la coupe des mercenaires russes de Wagner pour combattre les rebelles.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Sitôt devenu président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu a supprimé la subvention sur les carburants. Les prix du carburant ont immédiatement augmenté en flèche, ce qui a obligé les Nigériens, très habitués aux coupures de courant, de s'adapter pour faire face. Le reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
Philippe Obin est le directeur exécutif de Kotec Limited, l'entreprise qui importe et convertit les générateurs à essence pour qu'ils fonctionnent au gaz naturel de cuisine. La conversion consiste à remplacer le carburateur du carburant par un carburateur hybride qui permet à l'appareil de fonctionner à la fois à l'essence et au gaz.
En gros, ce qui a changé, c'est ceci. Votre carburateur habituel est exactement comme ça. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons un carburateur avancé qui a une chambre à gaz. Donc avec cette chambre à gaz, au moment où vous avez terminé l'installation, vous appuyez ici une ou deux fois pour la première fois pour conduire le gaz du cylindre vers les chambres. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Puis vous démarrez votre générateur.
Total Support Energy Group est installé à Port Harcourt dans le sud du Nigeria. Une filiale marketing et service de Total, une multinationale de l'énergie, impliquée également dans l'exploitation du gaz naturel et de son transport aux clients. Ifoma Okonko, ingénieur en chef de Total Support Energy Group.
Nous avons des camions à gaz dans lesquels nous transportons ce gaz naturel comprimé pour nos clients. Ainsi, avec la présence d'entreprises comme la nôtre, nous prenons facilement du gaz de notre station mère où nous avions comprimé ce gaz que nous avons obtenu des entreprises comme Shell. Tout ce que nous obtenons est comprimé comme environ 200 BOPS. Nous le chargeons dans nos camions et l'apportons à nos clients.
La suppression des subventions qui a fait grimper à plus de 100% le prix du litre de carburant a obligé de nombreux Nigérians à avoir recours au gaz de cuisine pour alimenter leurs générateurs. Cette invention a augmenté la demande du GPL sur le marché et suscite des inquiétudes pour certains à cause des risques d'incendie si la prudence n'est pas appliquée lors de l'utilisation du gaz très inflammable comme combustible.
Oui, des gens font cela ces derniers temps. Je dois dire que c'est assez innovant, mais nous devons également examiner les risques encourus. Je ne pense pas que quiconque ait pris son temps pour effectuer des recherches sur l'impact du gaz pour alimenter votre générateur. Si vous regardez les preuves de près, nous savons tous à quel point le gaz peut être inflammable.
Il y a de nombreux inconvénients en raison des risques liés à l'aspect du gaz. Beaucoup d'entre nous connaissent les incidents impliquant des explosions du gaz au Nigeria. C'est dû à un manque de coordination adéquat. Je conseille donc aux gens de continuer à utiliser du diesel au lieu du gaz.
Dans le 7 mois de juin dernier, Philippe Aubin a eu plus de 10 000 demandes pour sa technique d'utilisation du gaz naturel de cuisine qui coûte moins cher pour faire fonctionner un groupe électrogène. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Au Cameroun, les autorités veulent un développement équitable de toutes les régions du pays. 30 experts nationaux et internationaux viennent d'élaborer un document dénommé Schéma national d'aménagement et du développement durable avec l'objectif de pallier les inégalités sur l'ensemble du territoire national. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julenta.
L'option du gouvernement est d'implémenter désormais le développement intégré au Cameroun afin d'éliminer les exclusions, les disparités et la persistance des déséquilibres entre les 10 régions du pays. Guy Debock Ngemning, directeur de l'aménagement et de la mise en valeur des zones frontalières au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire.
Le schéma national d'aménagement et de développement du territoire nous permet d'avoir cette connaissance appropriée du territoire national à travers le diagnostic territorial qui a été fait. Sur la base de cette connaissance, les politiques de développement seront bien entendu élaborées en cohérence avec les caractéristiques de chacune des parcelles du territoire pour une planification temporelle et spatiale des infrastructures, des équipements, des projets de développement, tout en évitant des chevauchements, des duplications.
Plusieurs experts, à l'instar des urbanistes, ont contribué à l'élaboration du schéma national d'aménagement et du territoire durable du Cameroun. Viviane Faure, vice-présidente de l'Ordre national des urbanistes du Cameroun.
Cet instrument va également servir à orienter les collectivités, surtout les collectivités, dans la mise en place de leur plan d'urbanisme et de développement. Donc, les urbanistes auront un rôle très important à jouer pour accompagner les collectivités à s'approprier ce document-là.
L'expertise internationale a été également sollicité par les autorités camerounaises qui souhaitent ainsi améliorer la préservation du territoire rural et la planification du développement urbain. Rémélie Bouchemar, chef du projet.
Un pays qui se dote d'un SNAP, c'est un pays qui veut travailler autrement, compléter son dispositif jusque-là éminemment sectoriel par un dispositif spatial qui équilibre la vision afin que le développement soit le plus harmonisé possible.
Parmi les régions du Cameroun qui vont bénéficier du développement rationnel du territoire, il y a celle de l'extrême nord, frontalière au Nigeria. Daniel Kalbassou, président du conseil régional de l'extrême nord.
La région de l'extrême nord produit 69% du riz produit au Cameroun, c'est 100 000 tonnes. Actuellement, il y a un projet pour porter ça à 600 000 tonnes. Si je prends le 1000, on produit en moyenne 700 000 tonnes par an. On produit 35 à 40% de l'arachide produite au Cameroun. Vous savez, avec l'arachide, si on la transforme en produit l'huile, et le tuto aussi, c'est un élément essentiel. Nous produisons à peu près combien de tonnes? Dans la zone de Mogodé seulement, ils produisent 4 000 tonnes de soja. Ce sont les sociétés de Douala qui viennent acheter pour transformer, sinon ça va au Nigeria.
Le Cameroun veut atteindre le stade de pays émergent d'ici 2035. À cet effet, le pays doit faire d'ici là certains types d'investissements pour un développement harmonisé de son territoire. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Depuis mardi, un sommet des affaires Afrique-États-Unis se tient à Gaborone, au Botswana. Il va durer 4 jours. Cette initiative est organisée par la Corporate Council on Africa, une organisation à but non lucratif basée à Washington, D.C. Le sommet a pour thème l'amélioration de la valeur de l'Afrique au sein des chaînes de valeur mondiale. Plus de 1300 personnes, dont 9 chefs d'État africains, participent à ce sommet. Eric Madirakiza a joint à Gaborone l'ancien ambassadeur du Bénin à Washington, Omar Haruna.
L'intérêt de ce sommet, c'est ça s'appuie sur le secteur privé essentiellement et c'est beaucoup plus pratique dans le sens où on parle de finances, on parle de deals, on parle de projets, on parle de financement de projets, on parle d'exécution de projets. Donc c'est alors que le sommet qui a eu lieu à Washington, c'est le sommet des leaders africains et américain. Donc c'est un sommet de chefs d'État. Celui-ci, c'est même s'il y a beaucoup de chefs d'État, c'est plus un sommet de chefs d'entreprise que ceux qui sont dans la pratique de créer la richesse.
Y a-t-il des engagements clairs qui profiteraient à l'Afrique?
On sait déjà qu'il y a des engagements qui viennent et ces engagements, au fait, par exemple, viennent du fait que le sommet des leaders, par exemple, qui a eu lieu à Washington, avait pris des engagements. Et ces engagements sont en train d'être déroulés en ce moment. Je peux déjà vous dire qu'au niveau du sommet des leaders, il y avait à peu près 15 milliards de dollars qui avaient été alloués. Maintenant, cette enveloppe a été augmentée jusqu'à 16 milliards de dollars, ou plus de 16 milliards de dollars. Et il y a des deals qui ont été... effectué par exemple 250 millions de deals qui a eu entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Il y a par exemple le Ghana qui est dans un deal de 300 millions par exemple. Il y a un autre deal de 900 millions de dollars en Angola. Donc ce sommet-ci est en train de concrétiser tout ça là.
Alors, il y a la question de la GOA. Il est prévu une session spéciale. Qu'est-ce que vous allez discuter exactement?
Bon, évidemment, la GOA, c'est une politique déjà qui est une politique acquise d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ce qu'on va discuter de la GOA, c'est comment est-ce qu'il faut améliorer la GOA dans le contexte de la thématique dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la contribution de l'Afrique dans l'échelle de valeur mondiale. Donc la GOA a sa place et c'est de ça qu'on va discuter. On va discuter du renouvellement de la GOA évidemment. On va discuter peut-être même du fait qu'on pourrait pérenniser la GOA. Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on en discutera.
Qui sont les participants à ce sommet?
Ceux qui participent à ce sommet, ce sont des chefs d'entreprise africains, des chefs d'entreprise américains, des responsables de gouvernementaux de haut niveau et toutes les parties prenantes et des relations entre l'Afrique et les États-Unis et pour discuter des opportunités et des défis liés au commerce et à l'investissement en Afrique. En nombre, on a à peu près à ce moment 1300 participants, dont la fortune représente à peu près près de 3 trillions de dollars de chiffre d'affaires. Ça, c'est le nombre cumulé de fortunes qui sont ici à Gaborone pour le sommet Afrique, Amérique, des affaires.
Omar Haruna, ancien ambassadeur du Bénin à Washington, joint à Gaborone, au Botswana. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Lyon à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Afrique.